Et aujourd'hui, sur les ondes médias, on essaye de faire un zoom sur l'un des cancers cérébraux les plus fréquents chez l'adulte. On essaye de reconnaître le glioblastome. Il serait plus fréquent chez l'homme que chez la femme. L'âge moyen du diagnostic serait de 58 ans. Alors d'abord, c'est quoi? Quels en sont les premiers signes? Quelles en sont les causes? Et puis, qu'en est-il en termes de traitement? On pose toutes ces questions pour vous ce matin au professeur Ali Tahri. Bonjour.
Bonjour Marine.
Vous êtes professeur en oncologie à Marrakech, alors merci beaucoup une nouvelle fois de répondre au présent à notre invitation sur Médien. Alors d'abord, comment peut-on définir le glioblastome?
Alors, le glioblastome, c'est une tumeur cérébrale, c'est la tumeur la plus fréquente chez l'homme adulte.
D'accord.
Et comme tu as dit, une prédominance masculine entre 40 et 75 ans et qui se développe à partir de tumeurs cérébrales qui s'appellent les cellules gliales. Ça se développe à partir de ces cellules-là. C'est pour ça qu'on les appelle les glioblastomes. Et bien sûr, au début, on a des petits symptômes liés à la localisation. Et par la suite, on a des symptômes très francs de tumeurs cérébrales.
Alors justement, vous parlez de symptômes. Quels seraient les signes qui devraient normalement nous alerter?
Alors, il n'y a pas de signes, c'est-à-dire précis encore une fois de ces tumeurs-là, mais on a des signes d'hypertension intracrânienne.
D'accord.
Vous savez que la boîte crânienne chez l'adulte, elle est inextensible parce qu'il y a des os qui sont sous du crâne. Donc, quand il y a une masse qui va se développer, ça va augmenter la pression au niveau du cerveau et que ça va donner des signes comme des maux de tête, des nausées, des vomissements. Attention, quand on a des maux de tête, ça ne veut pas dire qu'on a un glioblastome, mais c'est-à-dire il y a plusieurs signes et surtout qui durent dans le temps. Des céphalées, on a des maux de tête, on a parfois un membre qui devient très faible, on peut avoir des crises d'épilepsie, et on peut avoir des signes de localisation, c'est-à-dire des signes en fonction de la localisation de la tumeur. Il faut savoir, au niveau du cerveau, il y a une partie responsable de la parole, une partie de la vision, une partie du comportement, qui est la région frontale. Et donc, en fonction de la localisation de cette tumeur, on peut avoir des troubles visuels, des troubles de parole, des troubles de comportement, de raisonnement, en fonction de cette localisation-là.
Alors, quelles peuvent en être les causes, justement, professeur Tahri?
Alors, pour les tumeurs cérébrales, malheureusement, il n'y a pas de cause comme ça. C'est-à-dire, il y a certains facteurs de risque et encore des facteurs qui sont très débattus et encore en cours d'études, c'est-à-dire c'est pas on n'a pas de relation de cause à effet qui est formelle. On a des causes de l'environnement, on a des causes c'est-à-dire héréditaires, on a des causes virales. Alors les causes de l'environnement, c'est-à-dire les facteurs de risque environnemental, il y a des facteurs chimiques, comme c'est-à-dire les pesticides, comme les gens qui travaillent dans tout ce qui est armement, tout ce qui est nucléaire, tout ce qui est raffinement du pétrole, qui peuvent effectivement être des facteurs de risque, encore, qui pourraient être des facteurs de risque. Au niveau de l'environnement, on a aussi les champs électromagnétiques.
Oui.
Et là, j'insisterai surtout sur, il y a les lignes à haute tension, mais surtout, ce qu'on utilise tous les jours, c'est les téléphones portables. Et c'est pour ça que, c'est-à-dire, on conseille, c'est-à-dire d'utiliser surtout toujours l'oreillette, pour ne pas, c'est-à-dire avoir le téléphone collé à l'oreille, qui pourrait être éventuellement, encore une fois, c'est pas formel, un facteur de risque de tumeur cérébrale en général, pas du glioblastome. À côté de ces facteurs de l'environnement, il y a des facteurs héréditaires, mais c'est pas le glioblastome. Il y a des tumeurs qu'on appelle les neurofibromes et le neurinome qui pourraient être, c'est-à-dire héréditaires. Et le troisième facteur, c'est le facteur viral, surtout le HIV, le virus du sida, qui peut être responsable de tumeurs cérébrales liées à l'immunodépression. Et comme tu as vu, Marianne, c'est des facteurs de risque de tumeurs cérébrales en général et non pas seulement du glioblastome.
D'accord. Alors, on le disait, il serait plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Justement, j'allais y venir, c'est personnes à risque.
Il n'y a pas de personnes à risque particulière, Marine. C'est-à-dire, les personnes à risque, c'est des personnes qui sont éventuellement ceux qui sont exposés aux facteurs de risque que j'ai déjà cités. Et j'insisterai encore une fois sur le truc le plus fréquent, le plus commun qu'on utilise tous, le téléphone portable avec l'usage primordial et capital de l'oreillette.
D'accord. Alors, en termes de diagnostic, comment ça se passe, professeur?
Le diagnostic, alors il y en a un patient qui a des maux de tête qui ne vont pas c'est-à-dire qui ne cèdent pas ce traitement antalgique, commencent à avoir des nausées, des vomissements, même des crises d'épilepsie, et parfois des signes de localisation, des troubles visuels, de comportement, qui va aller voir son médecin, et le médecin, en voyant ces troubles-là, le premier examen, le premier réflexe qu'on a tous, c'est qu'on demande un scanner cérébral, voire même une IRM cérébrale, et ce scanner-là, malheureusement, va nous montrer une masse, une tumeur, au niveau du cerveau, au niveau hémisphérique, c'est-à-dire à une partie du cerveau. Une fois qu'on a cette lésion-là, il faut bien sûr qu'on sache c'est quoi sa nature, et on va faire, c'est-à-dire une biopsie du cerveau, on peut faire, c'est-à-dire une biopsie à ciel ouvert, chirurgicale, comme on peut faire une biopsie guidée avec un cadre pour voir la nature de cette tumeur-là. Et une fois qu'on sait que c'est un glioblastome, à ce moment-là, bien sûr, on décide la stratégie thérapeutique.
D'accord. Alors, en termes de traitement, justement, cette stratégie thérapeutique, est-ce que c'est une nouvelle fois du cas par cas ?
Effectivement, c'est du cas par cas. Et on a des RCP qui sont actuellement obligatoires dans pratiquement tous les tumeurs, ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire, où il y a pratiquement tous les acteurs dans le traitement de ces maladies-là, et on décide le traitement adapté à chaque patient.
Qu'en est-il de la chirurgie ? Quand faut-il avoir recours à la chirurgie ?
Justement, le traitement de base du glioblastome, c'est la chirurgie quand elle est faisable. Parce qu'il faut savoir qu'on a parfois malheureusement des tumeurs étendues et le cerveau, c'est le moteur de l'organisme, c'est des régions qui sont vitales. Je m'explique, si la partie visuelle est atteinte en entier, si on l'enlève, la vision, ça y est, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de vision. Mobilité, motricité, parole et autres. Donc vraiment, c'est une chirurgie qu'on utilise avec parcimonie et quand elle est faisable, bien évidemment, et elle doit être une chirurgie R0, c'est-à-dire qu'on passe en limite saine et on doit enlever toute la tumeur avec des marges de résection. Si on enlève la tumeur et on laisse, c'est-à-dire du résidu tumoral, à la limite, ça sert strictement à rien. Donc, cette chirurgie, elle est décidée en comité avec le neurochirurgien, avec des nouvelles techniques de chirurgie, de neurochirurgie parfois. Et ils opèrent avec neurostimulation pour savoir les zones motrices et essayer de les préserver, pour essayer de préserver chez le patient, c'est-à-dire les fonctions vitales. Et malheureusement, quand cette chirurgie n'est pas faisable, on fait la radiothérapie, la chimiothérapie, les thérapies ciblées. Et même après la chirurgie, le standard, c'est faire de la radio-chimiothérapie post-opératoire.
D'accord. Alors en termes de prévention, est-ce qu'on peut dire qu'on peut prévenir la maladie, professeur Tahré?
Malheureusement, non. Je dirais non, mais on peut avoir une hygiène de vie, faire certains, c'est-à-dire avoir des réflexes simples de vie courante pour essayer de réduire le risque. Mais
alors justement, vous parliez de ces téléphones, par exemple, qu'il faut peut-être utiliser avec modération, j'allais dire, ou plutôt utiliser ces fameuses oreillettes, c'est ça?
Effectivement, alors le problème se pose au niveau des champs électromagnétiques en général. C'est pour ça qu'on préfère les oreillettes à fil. Sur les oreillettes sans fil, comme qui utilisent le Bluetooth, qui sont aussi des champs électromagnétiques.
D'accord.
Qui pourraient éventuellement, encore une fois, au conditionnel, être dangereux avec le temps, avec la durée. Donc, ce qu'on préconise et ce qui est le plus, préféré, c'est l'usage des oreillettes filaires pour parler au téléphone, comme ça, c'est-à-dire on évite ces champs électromagnétiques. Il y a aussi un point très important, il faut éviter de parler au téléphone quand il n'y a pas de réseau, quand le téléphone n'est pas chargé. Parce qu'à ce moment-là, paraît-il, c'est là où il y a le plus de champs électromagnétiques, et c'est-à-dire que reçoit l'oreille et de facto le cerveau, et qui pourrait éventuellement augmenter le risque de ces tumeurs cérébrales en général, et pas seulement du glioblastome.
Alors maintenant, si le diagnostic est posé, que diriez-vous à ces auditeurs ?
Je leur dirais c'est-à-dire que c'est une maladie qui n'est pas simple, c'est une maladie sérieuse et qu'il faut faire vite, parce qu'il y a des gens qui hésitent à se faire opérer, et entre-temps, la maladie prend de l'ampleur et devient non résécable, alors qu'elle était initialement résécable. Il faut se faire opérer C'est-à-dire qu'on a heureusement aujourd'hui au Maroc des neurochirurgiens de qualité et de renommée internationale et qui font des chirurgies vraiment de pointe avec toutes les techniques requises. Après la chirurgie, et Laurent, certainement c'est le standard aujourd'hui, la radiochimiothérapie. Et si le traitement est fait initialement et bien fait, c'est-à-dire quand la maladie est encore un stade initial, on a de bons résultats et on a de bons retours.
Je rappelle que vous êtes professeur en oncologie à Marrakech, professeur Ali Tahri. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions sur Média.
C'est moi qui vous remercie. Marie.
Et c'est un entretien, bien évidemment, que vous pouvez réécouter sur notre site media.com.